Coucou, ça va les auditeurs? On est de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour faire ce que le What the Fun fait de mieux en confinement, un podcast. Et ouais, c'est déjà l'épisode numéro 23 de À guichet fermé, le podcast des humoristes sans public. Je m'appelle Raphaël et je suis très content de vous retrouver pour ce petit exercice de papotage hebdomadaire. Alors pour moi, c'est chouette parce que ça me permet de rester en contact avec le public du What the Fun et ses humoristes. Et pour vous, ce podcast est l'occasion de rêve pour en apprendre plus sur l'une de vos idoles, pour savoir quelle est sa scène préférée, ses conseils pour percer en humour, et bien sûr pour apprendre sur lui, comme 90% des humoristes, si lui aussi était ringard en secondaire. Ringard en secondaire, ça me rappelle que je dois vous présenter celui avec qui je partage le micro lors de ces podcasts. C'est un homme tellement cool et branché que l'autre jour, il m'a proposé de jouer aux échecs avec lui. C'est Rudy Lejeune.
Je savais qu'il allait pointer les échecs. Alors oui, en effet, comme les trois quarts des humoristes, j'étais un gros naze à l'école. Et oui, en effet, comme les trois quarts de la planète, j'ai envie de rejouer aux échecs parce que j'ai regardé The Queen's Gambit qui est formidable.
Ouais, c'est un tout nouveau truc qui vient de sortir, les échecs. C'est vraiment, mets-toi à la page, quoi. C'est vraiment, je suis fier de toi. Mais Dieu soit loué, j'ai également convié à cette discussion de quoi rééquilibrer la balance de la coolitude, parce que nous sommes en présence d'un de nos humoristes préférés. Je pense que personne ne le résume mieux que lui-même quand il déclarait dans la description de son spectacle sur Facebook, et je cite, il est le gagnant du concours Next Prince of Comedy avec une unanimité jamais vue malgré le niveau hallucinant de ses concurrents. Dans sa bonté divine, il daigne gracier les ondes de ce podcast de sa présence. C'est notre invité d'aujourd'hui, c'est Denis Richir.
Mais je vous en prie, c'est la moindre des choses.
Non, merci d'être là.
En tout cas, en termes de coolitude, je pense que jouer aux échecs, je vais pas rééquilibrer ça parce que ça me plaît beaucoup. Donc, Rudy, c'est quand tu veux.
Oh purée, ça promet. Voilà. Voilà, j'ai un micro, trois humoristes et une heure à tuer. C'est parti pour l'épisode numéro 23. Et nous voilà de retour pour cet épisode numéro 23 avec le très très cool, moi je le maintiens, Denis Richir, que nous on connaît bien. Et comme toujours, Rudy s'est fait un plaisir d'aller chercher dans le passé des petites pépites, des anecdotes intéressantes sur notre invité. Rudy, à toi.
Et c'est reparti pour un petit tour dans le passé des comptes Facebook des humoristes belges. Denis Richir apparaît pour la première fois le 26 octobre 2015 au Kings of Comedy Club. Mais c'est pas exactement la première fois qu'il monte sur scène. À l'époque, Denis brûle déjà les planches lors de petites pièces de théâtre, mais surtout de matchs d'improvisation chez improvisation.be. Auto-convaincu par un ego faussement grossi à la taille de son talent, il s'essaye donc à l'humour sur les quelques scènes qu'il peut trouver, dont un truc dont je n'avais jamais entendu parler, le Marc L'Ambiance Show Circus Comedy Club à Woluwe-Saint-Lambert. Rien que le nom me fait rire. Mais on est en 2016, il n'y a pas encore beaucoup de scènes pour les jeunes artistes en Belgique. Denis forme alors les Fort Boyards, fort comme 4 en anglais, avec des amis humoristes improvisateurs, Steph, Kostia, Gray et Grégory Genard, et avec lesquels ils produiront quelques petites soirées spectacles, ensemble de sketchs en solo et à plusieurs. En 2017, il s'inscrit et gagne le Next Prince of Comedy Club face à notre ami André Demarteau. On peut même retrouver un extrait vidéo de sa demi-finale face à Nico sur internet, extrait qu'il qualifierait de truculent. Et c'est seulement en avril 2018 qu'il fera sa première apparition chez nous, à la maison, au Café Floréo. Un peu comme Florent Leçon lors de son épisode il y a quelques semaines, je me demande pourquoi il aurait fallu plus de 2 ans à notre BG barbu préféré avant de nous rejoindre. La peur certainement d'être comparé à un autre BG barbu au style proche du sien et bien en place à l'époque. Petite note que j'ai pu trouver, le 26 juillet 2018, tu crées ta page Facebook en écrivant, je cite, « Ça y est, j'ai enfin ma page Facebook. À ce rythme, j'ai bon espoir d'être sur Instagram d'ici 2 ans, 2 ans et demi. » Commentaire posté il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Ah, Denis, j'ai le passé en ligne et il aimerait te rattraper. Bref, revenons à la carrière. Je pense le dire à chaque fois, mais encore plus qu'avec nos invités précédents, j'ai l'impression, Denis, que tu as fait toutes les petites scènes de l'histoire du stand-up bruxellois. Kings of Comedy Club, Mib, Cooks, toutes les scènes du What the Fun, mais aussi celles du You Rire, le Comedy Cat, le Nord de Rire, le Club Comedy Club, le Théâtre Bisou d'Anderlecht, le Cali Club de Drogen Boss, le Petit Chaperon Rouge, le Trac et encore tout un monde de petits lieux presque oubliés aujourd'hui, comme la Zinzinerie, le Relais Comedy Club ou encore le rodage du Casa Sablon. Mais il est aussi passé un peu partout en Belgique et partout tous les festivals du pays. Hein. Prix du public au Festival du Rire de Charleroi, finaliste du Vous Rire la même année, finaliste du Festival de Bastogne en 2019, prix du public du Festival de Rémy-Cours toujours en 2019, de passage au Waterloo et au Festival International du Rire de Rochefort, je m'emballe. Et dans tout ceci, il est remarqué par les frères Taloche et participera à l'émission des 20 ans de Signé Taloche sur la RTBF avec sa fameuse imitation de Théo Franken sur l'immigration des animaux en Belgique. Restez. De notre côté, on notera aussi son passage au Grand Pestacle numéro 1, à l'épisode 0 de Stand-up sans frontières au TTO et à son duo avec Nikos lors de la 200e du What the Fun. Denis Richir est toujours dans les bons coups. Finalement, c'est en mai 2019 qu'il joue son spectacle pour la première fois. Spectacle qui va évoluer comme son titre et où on écoute Denis nous raconter comment il a appris à écrire un one-man show et monter sur scène sur base d'un livre nommé « Écrire un one-man show et monter sur scène ». Dans son spectacle, où il joue terriblement bien avec la langue française et beaucoup moins bien avec la modestie, Denis place surtout un personnage de comédien arrogant, auto-déifié et à l'ego plus grand que n'importe quel superlatif, sans pour autant jamais perdre la sympathie et l'intérêt du public qu'il séquestre de son charme pendant toute la durée du show. Et si tout cela ne suffisait pas, l'homme n'a pas laissé le Covid arrêter sa créativité et annoncer entre deux confinements la naissance d'un mini-lui qui venait de remporter son premier escape game. L'homme qui se décrit lui-même comme indescriptible, de la même manière qu'il ne serait pas possible de décrire un orgasme à quelqu'un qui n'en a jamais eu, reste cependant un être humain des plus sympathiques qu'on adore jalouser et dont nous avons la chance d'accueillir la voix suave aujourd'hui dans notre podcast.
Waouh! Excuse-moi, j'écoutais pas. Tu peux répéter, Rudy?
Non. Voilà, le ton est fixé. Hein.
Non, mais c'est génial. Ça. Franchement, ça me donne envie d'aller me voir. Quand je vous entends comme ça, j'ai envie d'aller me voir sur scène. Mais non, mais c'est dur après de ne pas prendre la grosse tête quand on entend ces trucs-là. Non, c'est super. Merci, Rudy. Merci, Raph. Toujours un plaisir de partager des scènes et des moments avec vous. Donc c'est top, c'est bien parti.
Dans ce que Rudy a dit, est-ce qu'il y a un truc qui ressort plus où tu es en mode « Ah oui, ça, en fait, j'avoue que ça, c'est en fait vraiment le highlight de ce que j'ai fait jusqu'à présent.
» En fait, c'est assez marrant parce que dans les highlights, en tout cas les plus gros plaisirs de scène que j'ai pu jamais faire, c'est avec quelqu'un que je n'aime pas du tout, qui est Nikos. J'ai un très bon contact avec Nikos et il y a effectivement deux des plus chouettes moments. C'était cette demi-finale qui est en vidéo, la seule vidéo, je crois, qu'il y a sur ma page Facebook, qui était la demi-finale du Kings of Comedy, du Next Prince of Comedy à XL. Et la 200e où on était vraiment pris au dépourvu parce qu'on s'était dit avec Nikos, on va essayer de faire un truc à deux. On n'avait pas vraiment de. S'était dit, on va clasher Fanny Ruet. On était parti là-dessus. On dit, on va
c'est
un peu improviser.
Toujours bien de commencer là-dessus.
Ouais, mais le truc, c'est que la veille, je crois, ou le jour même, c'est possible, Fanny Ruet, on a appris qu'elle ne serait pas là finalement. Et donc, avec Nikos, on s'est dit, tout ce qu'on a préparé, on fout ça de côté et on va essayer de faire un truc un peu sympa. On va repasser la soirée en revue et refaire un petit mot sur chacun des humoristes qui est passé avant. Et c'était vraiment un super moment parce que c'était très spontané et c'était très, très chouette.
Oui, c'était très bien écrit, très bien fait, parce que vous arriviez vraiment sur la fin de la cinquantaine d'humoristes qui étaient invités, et vous aviez vraiment un mot pour chacun, avec à votre tour une petite blague sur le passage, et ça a amené, je trouve, une synthèse formidable à la soirée, quoi.
Oui, et alors ce qui est particulier, je trouve, avec ces deux scènes-là, c'est extrêmement rare, c'est que c'était, en tout cas pour moi, et c'est peut-être pour ça que j'ai pris tellement de plaisir, c'était un partage non pas de l'humoriste avec juste le public, mais c'était un partage à deux, autant qu'avec le public. Quand on a fait cette vidéo où je jouais l'avocat et où je clashais Nikos, je m'amusais autant à voir la réaction de Nikos que je clashais sur scène que d'avoir les rires du public. Et pareil à la 200e du What the Fun. Et ça, c'est extrêmement rare parce que souvent on est juste seul face au public, ce qui est déjà un plaisir énorme. Mais il y a cette petite saveur particulière qui se dit ces deux fois-là on a eu un moment de partage différent qui était très et qui a très bien pris, donc ça c'était, et je pense que le public aime ça aussi, aime juste pas simplement le plaisir de ce qui a été écrit, mais de voir qu'on s'amuse qu'on s'amuse sur scène
pour
ensemble.
Pour moi, ça correspond vraiment au mécanisme des spectacles d'improvisation où le public comprend en fait qu'il y a vraiment un moment. On est dans un temps unique qui n'est pas une reproduction à l'infini et où on voit vraiment les jouteurs en impro ou le stand-upper dans les exemples que tu donnes qui est en train de vivre l'instant et du coup qui se marre, qui n'est pas dans sa stratégie, dans son développement et dans sa prise de plaisir, bien sûr, de réciter son sketch, mais qui est vraiment dans l'instant, dans le petit stress de est-ce que ça va marcher, dans la petite stress de l'improvisation qui, pour moi, amène beaucoup plus de plaisir à tout le monde, quoi. C'est l'instant, c'est la création du moment.
Oui, et comme tu dis, c'est des trucs éphémères parce que on peut pas reproduire ça. Je peux pas reproduire cette 200e avec Nikos, ni cette demi-finale. C'était à ce moment-là que c'était pertinent et après, ça n'existe plus. Et c'était peut-être pour ça que c'était magique aussi.
Comment est-ce que tu expliques cette connexion que tu as eue avec Nikos alors que tous les deux, vous avez quand même un background assez différent? Je crois qu'il y a... Il y a plus d'une génération entre vous deux. non, mais...
c'est vrai, en plus.
Vous avez tous les deux plus ou moins lancé votre projet de stand-up en même temps, mais qu'est-ce que tu penses qui fait que vous avez autant d'atomes crochus?
Je crois que c'est... J'ai pas l'habitude de dire des trucs positifs sur Nikos, mais je crois que c'est un personnage hyper attachant qui a ça avec beaucoup de monde. Je crois qu'il dégage cette... je sais pas, ce côté allez-y, vous pouvez me clasher, je vais bien prendre le truc et je vais vous renvoyer l'ascenseur et ça se fait toujours avec beaucoup de sympathie et du coup je crois qu'il a ça avec Fanny Ruet, avec plein d'autres où ils adoraient se clasher, se détester je crois que les gens parfois c'est une question de le courant passe super facilement et l'âge n'a aucune importance. Et avec Nikos, c'est le cas. Et avec d'autres aussi. Hein. Là, j'ai pris en exemple parce que j'ai cité deux moments de scène assez privilégiés que j'ai eu avec lui. Il y en a plein d'autres et c'est ça qui est très chouette dans ce milieu, c'est qu'il y en a plein qui ont justement ce côté d'emblée sympathique. Et voilà, avec lui, c'est facile. Ça pourrait l'être avec d'autres aussi, mais il se fait que ça s'est fait avec Nikos les deux fois.
Mais c'est intéressant de voir que comme Rudy a dit dans ta présentation, tu as eu toute une série d'expériences d'abord avec la scène où tu faisais de l'improvisation avec d'autres gens, puis tu as fait un quatuor d'humour pour faire des sketchs. Les highlights de ta carrière que tu as dit jusqu'à présent, c'était surtout avec quelqu'un d'autre. Comment en fait ça se fait qu'à un moment tu t'es dit tiens, maintenant j'ai envie de faire quelque chose tout seul sur scène?
Mais en fait depuis l'improvisation, et quand tu mentionnes le quatuor d'humour, c'est un petit peu un faux quatuor dans le sens où on ne partageait pas de sketch à quatre. En fait, c'était des soirées où chacun présentait ses sketchs et il y avait effectivement des moments un petit peu liens où on avait d'ailleurs essayé de se dire on va essayer de décrire un sketch à quatre, et ce qui s'est avéré mission impossible. Il y avait beaucoup de bonne volonté, beaucoup de camaraderie, mais on a des univers tellement différents qu'on avait du mal à s'accorder sur ce qui allait être rigolo pour le public et comment partager aussi une scène à quatre où chacun a quelque chose à dire et chacun a un truc à ajouter. Et donc on est parti plutôt sur des aspects, on a fait la première fois pour le premier spectacle des Fort Boyard, on faisait une espèce de danse qui était très marrante d'ailleurs, qui plaisait beaucoup au public parce que ça les déroutait un petit peu, ça venait tout à la fin. Et le deuxième spectacle, on a fait une sorte de fausse chorégraphie nage synchronisée qu'on a peut-être déjà vu sur Facebook, ça marchait super bien aussi. Mais écrire à quatre, c'était pas possible. Donc ce quatuor, c'était un enchaînement de... Il y avait Greg Genard qui passait, il y avait Kostia qui passait, il y avait moi qui passais, mais c'était nos sketchs à nous, qu'on avait écrits de notre côté, qui n'avaient pas été validés par les autres. Donc c'était déjà du travail individuel. Et ce travail individuel, il était né justement d'une petite frustration liée à l'improvisation. Ce qui était très chouette avec l'improvisation, c'est qu'on partait dans des histoires qu'on n'avait pas imaginées. Mais souvent, on ressortait de là en se disant « Ah ben c'est dommage, parce qu'avec ce terreau-là, si on avait eu plus de temps, ça aurait pu être génial. » Et moi, je m'étais lancé dans l'impro parce que justement, il y avait ce côté « Il faut être dans le présent, il faut être dans le lâcher-prise, dans l'écoute. » Alors que, vous me connaissez, moi j'ai plutôt un style où ce que je vais présenter sur scène, ça va être très très écrit. Il y a relativement peu de place, paradoxalement, à l'improvisation et aux échanges spontanés. Mais j'avais cette envie vraiment, quand j'étais à l'impro, de dire « Je voudrais prendre le temps de me dire « Ok, j'ai une situation de départ et je veux l'amener » à ce qu'elle peut donner de plus drôle, selon ce que je suis capable d'imaginer. Et donc vraiment prendre le temps de me dire, sur une situation, je peux écrire ce genre de blague et aller le plus loin possible dans un enchaînement de trucs rigolos. Et justement, quand tu as parlé tout à l'heure, Rudy, du Marc L'Ambiance Comedy Club au South Park, eh ben, c'était né de ça. C'est Marc Lambiotte qui gérait improvisation.be, qui gère toujours d'ailleurs improvisation.be, qui avait entendu de la part de plusieurs improvisateurs, dont Greg Genard, dont Kostia, etc. Ah, ce serait chouette si un jour on pouvait présenter aussi des sketchs écrits. Et il s'est dit, au bout de quelques années, ben, ok, vous savez quoi, les gars, on va faire une soirée où ce sera ça. Ce sera pas de l'impro, ce sera ouvert au public de l'impro, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous suivent, mais ne viendront sur scène que des artistes, des improvisateurs qui auront écrit quelque chose. Et c'est là-dessus que je suis parti avec mon tout premier sketch sur l'asexuel, où je m'étais dit, tiens, c'est quoi la jeunesse d'un asexuel, c'est quoi être amoureux quand t'es asexuel. J'étais parti sur ce délire-là. Et donc j'ai présenté mon tout premier sketch, et ça a très très bien pris, ça m'a donné l'envie, le goût de ça, et c'est suite à ça que j'ai progressivement été vers la création de sketch avec les Fort Boyard, et puis après les concours, le What the Fun et tout le tralala, quoi.
Ouais, j'ai une question du coup par rapport à ça, parce que ça me rappelle un peu aussi le parcours que Rudy et moi on a fait, c'est-à-dire d'abord dans l'improvisation théâtrale,
ouais.
Et puis dans l'humour, on va dire, plus écrit. Est-ce que t'as aussi été hyper stressé la première fois que t'as présenté un texte écrit? Parce que dans mon expérience, dans l'improvisation, c'est très stressant les premiers matchs que tu fais, les premiers spectacles. Mais après un moment, tu commences un peu à connaître comment ça fonctionne, à faire confiance à ton cerveau et à savoir que une fois sur scène, sur la patinoire, tu vas avoir un truc qui va sortir, qui va fonctionner, quoi. Alors que quand t'as écrit quelque chose, je trouve que c'est un exercice beaucoup plus stressant. Et donc, moi-même, j'ai eu cette expérience, mais il y a aussi dernièrement un autre de nos amis improvisateurs, Valentin Delieu, qui a fait un sketch pour la première fois, et je le considère comme un des meilleurs improvisateurs belges. Et là, il était mort de trouille à l'idée de monter sur scène, présenter un texte qu'il a écrit. Et après, il a présenté le texte, ça s'est super bien passé, mais ça met un degré de pression complètement différent qu'on a dans l'improvisation. Alors, est-ce que toi, t'avais aussi ça quand t'as présenté la première fois un texte écrit?
Oui, bien sûr que oui. Alors, c'est un stress qui, heureusement, est parti assez vite, parce que dès que tu sens que le public réagit et accroche à ce que tu proposes, ben, tu commences à prendre beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a ce stress qui est aussi lié au fait que tu sais que quand tu fais de l'impro, et tu l'as connu aussi, le public sait que tu sais pas ce que tu vas jouer, et donc il est beaucoup plus clément. Ouais. Tandis que si tu viens faire un spectacle d'humour avec un texte préparé, il se dit, ok, le mec, il a pu y réfléchir, il vient confiant avec, mais c'est vrai que l'attente est complètement différente. Et, ouais. Mais par contre, aujourd'hui, je pense que je serais beaucoup plus stressé à l'idée de me lancer dans un match d'impro que de me lancer sur scène avec des sketchs écrits, parce que je me dis que j'ai un filet de sécurité. Je sais plus ou moins ce que je sais faire maintenant avec un texte, surtout s'il a été rodé. Et attention, il y a toujours beaucoup de stress, surtout quand tu proposes quelque chose de nouveau. Mais l'impro, me dire aujourd'hui je pars sans filet, j'arriverai peut-être moins facilement à prendre du plaisir immédiatement en étant sur un match d'impro. Et pourtant, c'est parfois là que tu as les plus belles surprises, quand les trucs, les pièces du puzzle se mettent en place et qu'il y a une belle histoire qui se construit. Mais ça répond peut-être à une autre question qui aurait pu venir. L'impro ne me manque pas, en fait. Depuis que je suis passé.
Il va continuer l'interview tout seul. Il a décidé de choisir ses questions.
Oui, non, mais vraiment, depuis que je suis passé au stand-up, je n'ai plus tellement cette envie de faire de l'impro. Ça me reviendra peut-être, hein, parce que j'avais déjà arrêté une première fois l'impro après. Je crois que j'ai fait au total 7 ans d'impro, et je pense que c'était genre 3 ans et puis quoi, 4 ans que j'avais fait. Ou l'inverse, 4 ans et puis 3 ans. Donc j'avais eu un moment où je m'étais dit stop, et puis ça m'a manqué. Mais la deuxième fois, le deuxième arrêt, maintenant, c'est la scène, quoi. Enfin, c'est la scène.
Et est-ce que c'est parce que la scène répond aux besoins que tu avais quand tu faisais de l'improvisation, et il répond mieux? Parce que, bien sûr, entre nous qui aimons monter sur scène, on monte sur scène pour le plaisir de faire rire, pour le plaisir d'avoir ce moment d'ego trip, ce moment où on est regardé, où on est apprécié, c'est quelque chose qu'on cherche. Est-ce que tu te complais en fait plus et tu reçois plus sur scène grâce au stand-up que grâce à l'impro? C'est ça qui ferait que...
Oui, c'est ça. Ce qui m'énervait dans l'impro, c'est partager le spotlight. Ça m'énerve.
Mais comme je te comprends.
Je n'aime pas. Non, mais après, il y a un aspect de plus se dire, si ça marche pas, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Un peu comme des sports de... En fait, je fais d'un seul coup un parallèle que j'avais jamais fait, mais j'ai toujours fait pas mal de sports, mais toujours des sports individuels. Et je crois qu'il y a quelque chose chez moi lié à... si je gagne ou si je perds, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Ce qui est peut-être dommage et triste, hein. Je me suis toujours demandé pourquoi j'avais pas fait plus de sports d'équipe avec sans doute une camaraderie peut-être... Tiens, je suis en train de faire mon auto-analyse, là. Je suis en train de me psychanalyser.
Creusons dans ton passé. Quelle est ta relation avec tes parents, Denis?
Denis Richir, c'est un seul en scène, et le seul en scène prend tout son sens ici, quoi.
Oui, oui, c'est vrai. Et même si j'ai évoqué le cas avec Nikos, parfois je me dis que ce serait sympa d'essayer de faire des duos. Mais les deux expériences que j'ai déjà évoquées de tentatives d'écriture à plusieurs, je trouve ça extrêmement compliqué. Et j'admire d'autant plus aujourd'hui les duos humoristiques. Je me dis, ils doivent avoir une connexion pour comprendre du tac au tac ce qui va faire rire l'autre et ce que l'autre attend, qui me semble difficile à trouver aujourd'hui.
C'est aussi un peu un test de l'écriture en commun, de proposer des idées. Parce que quand on écrit nous-mêmes, on se propose des idées qui sont parfois, souvent même, complètement nulles. Et on a le temps de s'écouter soi-même et de les balancer par la fenêtre. Et la seule personne qui nous juge, en fait, c'est nous-mêmes. Ouais. Alors que quand on écrit avec quelqu'un d'autre, moi, j'ai déjà imaginé plein de fois des sketchs que je voulais écrire avec Rudy, par exemple, avec qui j'ai quand même une bonne connexion. Et parfois, je me dis, tiens, est-ce que si je pitch ça à Rudy, il va trouver ça naze ou bien quelque autre chose? Et je trouve ça dommage parce que après, avec Rudy, on a déjà une fois fait l'un ou l'autre truc à deux qui donnait plutôt bien et qui était plutôt marrant, quoi. Ouais. Et donc, je crois que parfois, les stand-uppers, on a une sorte de réflexe de rester dans sa propre bulle d'écriture. Ouais. Et par exemple, j'avais vu des interviews de stand-uppers parisiens, mais vraiment qui sont déjà loin, comme Farid, etc., qui, en fait, eux, n'arrêtent pas de se balancer des idées l'un à l'autre, des idées de vannes, et ils se débriefent l'un l'autre, et il y a vraiment beaucoup plus d'échanges. C'est un peu comme un peer review comme ça scientifique où les gens doivent avoir confirmé le truc par deux autres humoristes pour se dire ok, cette vanne elle fonctionne ou bien elle peut pas être meilleure. Et je trouve ça, c'est encore un truc qui manque encore un peu au niveau de la culture du stand-up en Belgique, où l'écriture encore se fait très très seule, ou si même la mise en scène, c'est quand même quelque chose qui se fait principalement seul pour le moment, quoi. Oui. Toi, tu travailles seul ou tu travailles avec quelqu'un, Denis?
Non, je travaille seul. Mais ce que tu viens de dire m'évoque quelque chose, c'est que je me dis, c'est encore autre chose de dire, voilà, il y a un texte qui est déjà écrit, il y a un angle qui est déjà adopté par rapport à la thématique qui veut être abordée sous forme de sketch, etc. Et toi, tu viens avec éventuellement des punchlines ou juste des conseils. Tiens, là, si tu rajoutais juste ça, ça pourrait être top, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher et te dire... créer un sketch où tu te dis quel sujet on va aborder, quel angle on va trouver par rapport à ça, ça me paraît plus compliqué. Je pense que apporter des petites vannes sur un truc déjà bien construit, ça me semble plus facile. Mais en fait, c'est ça qui m'excitait aussi dans un des nombreux projets du What the Fun qui était le battle. Qui pour l'instant est un peu au frigo, c'était ce challenge de dire ok, la semaine prochaine j'ai besoin de quatre humoristes, mettez-vous d'accord sur des sketchs à écrire. Et alors c'est compliqué sans doute logistiquement à faire, mais le challenge de se mettre ensemble pour écrire, je trouvais ça super sympa. C'est quelque chose que j'aimerais plus tard essayer quand les conditions seront peut-être un peu meilleures et que j'aurai plus de temps pour le faire, mais... il y a quelque chose qui m'intéresse.
C'est clairement un projet qu'on voudra faire, en tout cas, à un moment. Ouais. Ça, en fait, pour les auditeurs qui se demandent de quoi Denis parle, c'est le stand-up battle. C'est un nouveau concept qu'on voulait lancer avec le What the Fun, où régulièrement, je crois même on voulait faire ça une fois par semaine, un groupe d'humoristes affronte un autre groupe d'humoristes avec des exercices de parodie, d'écriture, des one-liners, et chaque fois avec des catégories différentes. Mais ouais, donc ça, c'est clairement... En fait, c'est ça qu'on s'est dit avec le What the Fun, qu'on aimerait bien faire des catégories où c'est pas juste un plateau d'humoriste où les gens peuvent venir avec un sketch, mais vraiment quelque chose où ça va forcer les artistes à écrire. Parce que c'est un exercice d'écriture, en fait. C'est ça, le stand-up battle, le concept qu'on avait, c'était plus un battle d'écriture qu'un battle vraiment de stand-up, quoi.
Ouais.
À voir dans l'avenir, à voir dans l'avenir.
Ouais, oui, j'espère. J'espère que ça se fera.
Denis, tu avais mentionné, c'est un truc qu'on voulait bien sûr aborder avec toi lors de ce podcast, ton style. Ton style qui, pour nous, est beaucoup plus travaillé, propre, plus théâtral, on va dire, que la majorité des stand-uppers. Alors déjà, je voulais voir avec toi, est-ce que toi, tu te qualifies comme stand-upper et est-ce que comment est-ce que tu qualifierais en fait ce que tu fais sur scène, pour les gens qui t'ont jamais vu sur scène?
Alors, j'avoue que je ne mets pas vraiment de nom sur... est-ce que je fais du stand-up pur? Je pense que pas tout à fait, puisque je fais quand même parfois des petits personnages. Comment est-ce que je qualifierais ça? Je sais pas. C'est une forme. Il y a du stand-up. Parfois, il y a peut-être
En fait,
plus
c'est
du
du donner
sketch.
richir, on peut pas le qualifier autrement, quoi.
Mais
Ça, c'est une
voilà,
nouvelle catégorie.
c'est hors norme, c'est hors catégorie. Non, mais par contre, vous revenez avec cet aspect de mec qui se la raconte, et c'est vrai que c'est un personnage qui m'est cher, que j'utilise beaucoup dans mes sketchs, mais c'est un peu à double tranchant, parce que j'aimais bien ta description, Rudy, qui disait sans jamais perdre la sympathie du public. C'est super gentil, mais ça n'a pas toujours été vrai, en fait. Parce que si ce personnage n'est pas compris comme étant un personnage, il peut parfois ne pas attirer la sympathie du public, et je me suis déjà perdu sur certaines scènes où visiblement, je n'avais pas suffisamment bien clairement posé le postulat que ce que je présentais était un personnage et que j'étais pas aussi imbu de moi-même. Et dans la vraie vie, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à se remettre en question, à douter.
Il y a un peu le même mécanisme qu'avec l'humour noir, en fait, j'ai l'impression. Quand tu viens avec un personnage
Ouais.
égocentrique, vraiment, regardez-moi, je suis le meilleur, de
Ouais.
la même manière que quand tu viens pour dire, je vais faire de l'humour noir, il faut expliquer au public, c'est des blagues, on va en rire, c'est une manière de faire des blagues. Et c'est tout le jeu particulièrement difficile pour moi à l'humour noir, mais qui s'applique aussi à toi, de pouvoir, dans les premières phrases, dans l'intro, dans l'arrivée sur scène, que ce soit pour un 1 heure ou pour un 15 minutes, de dire, les gars, sans le dire directement pour pas casser le truc, mais de faire comprendre, les gars, c'est le jeu. C'est à ça qu'on va jouer là maintenant pendant 15 minutes, 1 heure. Je vais être un connard arrogant, mais c'est du second degré.
Oui, c'est ça. Et si c'est pas très clair, ça passe pas, tout
Mais moi, je
simplement.
trouve que c'est aussi difficile pour toi. Je crois que, mais dis-moi si j'ai tort, hein. J'ai l'impression que c'est plus facile pour toi de poser cet univers dans ton spectacle d'une heure, où le public est dans ton univers du début à la fin. Alors que dans des plateaux, ça doit être compliqué, parce que parfois, il y a trois artistes qui sont passés avant toi, qui ont fait du stand-up pur, limite premier degré, et puis toi, t'arrives avec un personnage. Et donc, il y a certaines personnes qui se disent, à quoi, comment est-ce que je dois prendre ça? Et puis surtout que t'as aussi parfois des moments où tu es Denis Richir, et des moments où tu es un personnage, ou bien une version agrandie de Denis Richir. Donc, est-ce que t'as
Ouais.
remarqué que, genre, pendant ton spectacle complet, c'est plus facile à apporter?
Ben en fait non. En fait non parce que il y a des publics qui vont se dire ok j'accepte que tu me fasses ton mec arrogant pendant un petit quart d'heure si tu fais une scène, mais sur un plateau d'une heure, il y a un moment donné j'ai compris, ça va. Maintenant tu peux faire autre chose. Et donc il y a un équilibre assez fragile à trouver entre me donner parfois des couleurs un peu plus humaines et humbles et tout ce que tu veux, et parfois revenir avec ce personnage qui malgré tout, quand il est bien pris et reçu et compris, peut faire rire parce qu'il va dire des trucs énormes tellement il est imbu de lui-même. Mais justement, le maintenir trop sur 1 heure, au début j'étais parti là-dessus. J'avais pris les conseils d'un autre humoriste que j'adore, que vous adorez aussi, qui était Étienne Serre, qui a quand même beaucoup de bagages. Et j'avais dit, tiens, Étienne, j'aimerais bien écrire un 1 heure, mais je sais pas du tout comment m'y prendre, comment est-ce que tu fais un fil rouge, comment est-ce que tu construis un truc. Et il m'avait dit, écoute, moi, je ne te donne que des avis. Tu en fais ce que tu veux. De toute façon, il faut savoir que ça va évoluer. Mais je voyais deux choses chez toi. C'était la langue française et cet ego surdimensionné. Et il m'a dit, pour moi, ça doit être ta toile de fond sur laquelle tu dois pouvoir revenir à chaque fois. Et donc, moi, je suis parti dans cette idée, OK, je dois tenir cette toile de fond, je dois être arrogant sur tout mon spectacle pour que ce soit cohérent. Et en fait, j'ai très vite compris qu'il allait falloir que je nuance beaucoup. Parce que, comme le disait aussi Cédric, le propriétaire du Kings of Comedy Club, il a dit, oui, ça marche sur un quart d'heure, mais sur 1 heure, tu n'arrives pas, si tu gardes ça tout le temps, à te rendre sympathique. Tu dois trouver, un peu comme à l'impro, hein, on parle de rupture, et à un moment donné, ça doit casser, et à un moment donné, ça doit te revenir en pleine gueule, ça doit être l'arroseur arrosé, tu dois toi te prendre des claques, sinon, on ne s'attache pas suffisamment à toi. Et tout ça, c'est des excellents conseils qui ont fait que le spectacle a déjà beaucoup évolué, continuera à évoluer jusqu'à trouver vraiment ce qui marchera le plus souvent. Parce qu'il faut aussi accepter qu'on ne plaira pas à tout le monde et qu'il y a des publics qui vont accrocher à ce que je présente et d'autres qui ne rentreront pas dedans. Ça, c'est aussi quelque chose que je dois accepter. On n'a pas
Ouais,
un humour
tu fais
universel.
référence en fait à l'importance de quelque chose qu'on voit vraiment qui est crucial, en tout cas en Belgique. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose de un des trucs les plus importants pour avoir du succès en humour en Belgique, c'est la sympathie du public.
Oui.
C'est qu'en fait, à tout moment, ils se disent « j'aime bien le mec, la meuf qui est sur scène ». C'est quelqu'un de sympathique et c'est quelqu'un qui va dire des trucs qui sont pas politiquement corrects, qui va peut-être clasher quelqu'un dans le public, mais c'est... Et donc, ça aussi, je crois qu'avec Rudy, même d'autres humoristes, on s'est déjà posé la question, comment en fait récupérer si à un moment on l'a perdu? Même en tant qu'MC, parfois, par exemple, moi en tant qu'MC, je joue quand même beaucoup avec le public,
ouais.
Et je les taquine, et parfois, quand je vais en coulisses, il y a Rudy qui vient me voir et qui dit « Ah, là, t'étais un peu trop loin avec lui, ou bien là, t'as frôlé la limite de perdre la sympathie du public. » Et donc, c'est dur, parce que le public, il veut en même temps, d'une certaine manière, être bousculé,
ouais.
Mais pas trop bousculé non plus. Et donc, j'ai l'impression que parfois, il y a des trucs qui, comme tu dis, hein, qui fonctionnent avec un public, mais qui fonctionnent pas avec un autre, pour je ne sais quelle raison.
Oui, et là, en plus, tu mentionnes le rôle du MC qui est encore différent, parce que là, tu improvises beaucoup et tu vas pas... C'est sur le moment même, tu vas être très fort dans la réaction et très vite, il peut y avoir quelque chose que tu sors, que tu ne sortirais pas chaque soir et qui, une fois le passera, une fois passera pas. Dans le spectacle, c'est quand même plus... tu peux plus l'avoir déjà testé et plus te dire « Ok, cette phrase-là, je pense que je la ferai plus jamais parce que je vois qu'elle est gêne ou en tout cas, je la dirai plus de telle manière. Mais en tout cas, je vais prendre l'exemple d'un Franck Dubosc. C'est quelqu'un qui joue aussi l'arrogant, mais qui a toujours cette... il joue l'arrogant, mais beauf. Et donc, quelque part, on le trouve sympathique parce qu'il est, un peu à côté de la plaque, quoi. Il est un peu... Et je sais pas, peut-être que j'ai un truc qui devrait plus se rapprocher de ça. Non, le côté arrogant qui est arrivé en fait de manière assez pas spontanée parce que c'était quand même réfléchi, mais j'ai pris ce personnage-là au départ parce que je trouvais qu'il était, il y en a, je voyais beaucoup d'humoristes et en fait surtout aussi beaucoup de femmes humoristes qui jouent sur la corde. Désabusé, un petit peu aigri, je suis nul, moi il n'y a rien qui me réussit, les amours ça marche pas, etc. Et il y en a plein qui font ça super super bien et qui c'est très drôle, hein, c'est pas un jugement. Mais je dis tiens, on a pas souvent l'autre aspect, le gars à qui tout réussit, le gars qu'on adore détester parce que lui en fait pas de bol quoi, tout marche pour lui et donc je m'étais plus dit que j'allais tester ce personnage là parce qu'on ne le voyait, je trouvais pas beaucoup sur scène, même si il y a Franck Dubosc et il y a des Jérémy Crédville pardon qui le font très bien même, mais c'était plus parce que j'avais l'impression de plus voir l'inverse que de voir ce type de personnage là et donc j'ai voulu l'essayer et comme j'ai vu que ça marchait, bah, je l'ai tiré un peu plus loin et finalement c'est devenu un petit peu un des traits principaux qui caractérisent mes passages sur scène, mais le tout premier sketch que j'ai fait sur la sexuelle n'avait rien à voir par rapport à ça, hein, pas du tout.
Mais c'est ça, moi je trouve que c'est tout à ton honneur de choisir la difficulté. Moi je trouve que, en effet, comme tu dis, ça, je trouve en tant qu'humoriste, à un moment, il y a beaucoup de thèmes qui ont déjà été abordés, il y a des angles qui ont déjà été abordés, et donc c'est intéressant de se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant de rafraîchissant, quelque chose que les gens n'ont pas encore vu. Mais donc souvent on va devoir s'aventurer dans des milieux, sur des thématiques, sur des angles que d'autres artistes n'ont pas choisi de suivre parce qu'ils sont compliqués. Et ça c'était une autre question que je voulais te poser,
ouais.
qui est aussi un peu liée au fait, c'est, on peut croire que c'est pas lié mais je pense que c'est lié, c'est le fait de choisir aussi un peu la difficulté. Et par exemple, je trouve que toi, dans en tout cas les quelques prises de position que tu as dans tes sketchs, tu choisis un humour qui est, moi je dirais, qui n'est pas celui du politiquement incorrect.
Non.
Tu as un humour pro-féministe, pro-environnement,
oui.
Et je trouve qu'en 2020, c'est souvent quelque chose qui est difficile, pas une position difficile à défendre, mais un angle qui est difficile à utiliser pour faire rire le public. Parce que souvent les gens, ils savent, ah ouais, tu viens sur scène, tu dis un truc trash, ou bien un truc d'humour noir, ou un truc politiquement pas correct, tu vas au moins avoir quelques personnes qui vont rire dans le public. Et donc, moi, je trouve ça intéressant de voir que, parfois, toi, tu prends une position ou un angle qui, justement, va être plus compliqué pour faire rire le public. Et c'est là, du coup, que ça me surprend que tu arrives aussi à faire rire avec cet angle-là. Alors, moi, je me posais la question, est-ce que c'est par rapport à tes convictions philosophiques ou bien est-ce que c'est vraiment une volonté de dire, tiens, je vais essayer de dire quelque chose qui n'a pas encore été dit ?
C'est un peu entre les deux. Je dirais pour l'aspect environnement, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et d'ailleurs, mon métier tourne autour de ça. Et je m'étais dit aussi, ça, tu n'as sans doute pas vu, Raph, parce que je ne le dis pas sur les plateaux, mais je l'aborde un tout petit peu dans le spectacle, que quitte à monopoliser un public pendant plus d'une heure dans un spectacle, je voudrais essayer autant que possible de faire passer des valeurs ou un message ou en tout cas une réflexion chez les gens par le biais de l'humour si c'est possible. Et donc ben oui, effectivement, je prends une position par rapport à l'environnement qui est dans le, c'est pas du tout du politiquement incorrect. Je suis plus à dire aux gens, oui, il faut avoir ça à l'esprit. Et par contre, pour l'aspect peut-être plus féministe, alors ça fait partie effectivement de mes valeurs, mais c'est plus arrivé un peu par hasard parce que j'ai fait des observations linguistiques qui me faisaient dire, mais en fait c'est quand même marrant que certains mots sont tellement macho, en fait, la grossesse pour parler du fait d'avoir un enfant. Et donc ça s'est mis comme ça, et je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont un petit peu machistes dans la langue française? Et du coup, je l'ai intégré, et c'est devenu une petite partie que j'aborde dans le spectacle. Mais c'est pas parti d'une volonté de me dire, ok, je veux souligner cet aspect-là absolument parce que les choses doivent changer, etc. C'est juste qu'au début, j'ai trouvé ça intéressant, si pas drôle, si pas haha, au moins de se dire, ah ouais, tiens, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça, et j'avais envie de l'insérer dans le spectacle.
Mais c'est ça, donc l'intention, dans un premier temps, est de faire rire, c'est quelque chose que tu remarques, oui, qui te fait rire, et puis, occasionnellement, en fait, c'est aussi un truc qui une lutte que tu veux défendre, quoi. Est-ce que toi, de ton point de vue, tu penses, c'est une question qu'on a déjà posée à d'autres humoristes, est-ce que tu vois l'humour comme vecteur pour changer la société? Est-ce que tu crois que quand les gens viennent te voir au spectacle, à la fin, tu as réussi à placer quelques idées dans leur tête qu'ils n'avaient pas avant?
Je ne sais pas si c'est des idées qu'ils n'avaient pas avant, mais c'est peut-être parfois une petite piqûre de rappel ou bien peut-être aussi, moi j'avais vu un spectacle de Gilles Alma à Rochefort l'année passée que je trouvais très très bien parce que sur tout son heure, il avait réussi à faire plier la salle de rire, moi y compris, mais il avait eu le culot, je trouvais, de terminer par quelque chose, mais vraiment, donc finir son spectacle, on dit toujours de terminer en apothéose par le truc le plus fort, etc. Eh ben lui, pas du tout. Il avait terminé sur un message qui était aussi lié d'ailleurs à l'écologie, mais tout à fait sincère, tout à fait posé et pas du tout, qui prêtait pas du tout à rire. Et ça allait vraiment, moi ça faisait écho à une envie chez moi de me dire, oui, faire rire sur une heure, c'est bien sûr l'objectif, il n'est pas question de flouer les gens, s'ils viennent c'est avant tout pour se marrer, mais c'est aussi une manière de dire, ben, derrière toutes ces choses qui font rire ou sourire, etc., il y a peut-être aussi certaines choses qu'on peut parfois remettre l'église un peu au milieu du village sur certaines choses, on peut en rigoler, mais derrière il y a peut-être une problématique réelle. On n'a pas envie de se gâcher la soirée, à se mettre à pleurer et à se dire que tout est foutu, c'est pas ça du tout, mais se dire, ah oui, peut-être qu'il y a peut-être des petites choses auxquelles j'avais peut-être pas suffisamment réfléchi, ou peut-être que des petites choses que je peux changer. Et venant de la part d'un humoriste, je trouve ça, quand je vois ceux qui le font, je trouve ça toujours intéressant, parce que tu te dis, ok, j'ai vu le clown, mais j'ai vu aussi le personnage derrière qui est touché par certaines choses de la vie, qui le travaille. Et j'aime bien cet aspect-là. J'aime bien voir les deux sur un spectacle complet, hein, sur un passage de 10 minutes, 12 minutes, peut-être pas forcément, mais j'ai l'impression que je connais mieux Gilles Alma, de l'avoir vu faire ça, de savoir qu'est-ce qu'il représente, qui il est, au-delà de simplement le gars qui me fait rire, quoi. J'aime bien cet aspect-là.
C'est beau. Rudy, toi, tu dirais que dans tes sketchs, tu te bats pour quelle valeur?
Contre la grossophobie, principalement, dans pas mal de mes sketchs. oui, bah, l'humour comme... Bah, moi, je pense que l'humour, c'est un outil à promotion de débat. En fait, c'est que tu vas, vu que tu es sur scène et que tu vas faire des blagues, tu vas pouvoir te permettre de parler aussi, si tu le fais intelligemment, de sujets sensibles, de sujets difficiles. Et du coup, d'avoir fait une blague sur des sujets, sur le racisme, sur l'homophobie, ce genre de choses, bah, tu crées le débat, tu crées l'intérêt, tu, les gens, après le sketch, vont peut-être en parler entre eux, vont vous remarquer. Et certains sketchs, très bien écrits, viennent en fait rire avec ou de la problématique, tout en la cassant, tout en la mettant toute nue devant les gens, pour que les gens puissent ensuite la déconstruire par eux-mêmes. Je trouve que l'humour est un très bon outil et peut être utilisé pour ça. T'as vu ça? Tu croyais me surprendre avec une question compliquée, boum, t'as vu?
Mais oui, mais
non, c'est très bien. Non, non, mais ça m'a fait marrer parce qu'en effet, il y a certains humoristes où on sent la plume engagée et d'autres moins. Et donc, mais ça veut pas du tout dire que l'un est mieux que l'autre. C'est juste.
Je sens le jugement.
Dans les vannes de Rudy, c'est des trucs plus soft, on va dire. Ah, tu veux parler de ton chien ou de.
Oui, c'est moi, j'ai fait de l'humour Gad Elmaleh, l'humour qui plaît à tout le monde, qui est gentil, qui blesse personne, quoi.
Oui. Mais en ce qui me concerne, j'ai jamais eu, en tout cas, non, j'ai rarement eu des moments où je me suis dit, ah, j'ai absolument envie de faire un sketch sur le racisme pour dénoncer les excès du racisme. C'est plus des situations qui ont amené à parler un petit peu d'environnement ou à parler un petit peu de sexisme ou même de racisme, mais c'est pas la volonté de je m'assieds, je crée sur cette problématique-là, cette problématique-là qu'il faut aborder. C'est pas un
parti pris. Je crois que c'est la bonne façon de faire, quoi. C'est bien parce que tu parles de ton style d'écriture, qui est aussi un des trucs que je voulais aborder avec toi.
Oui.
Et sans vouloir trop te frotter le manche, on est de l'avis que tu as une des plus belles plumes. Le manche, la manche, je sais pas comment.
Ouais.
C'est le moment de rappeler à nos auditeurs que je suis germanophone à la base. Donc, j'essaye ici, les gars. En plus, j'avais envoyé les questions à Rudy. Donc, si je fais des erreurs, c'est sa faute de pas m'avoir relu.
C'est pas écrit ça dans les questions.
Non, en effet. J'essaie de me sauver ici, ok? Tout ça pour dire, Denis, que,
ouais.
Moi, en tout cas, je trouve que t'as une des plus belles plumes d'humour en Belgique. T'as vraiment un texte.
Wow.
S'il y a un truc qu'on peut dire de ton texte, c'est que c'est super bien écrit. Chaque mot a sa valeur, il n'y a pas trop peu, c'est du très beau français, et ça dénote aussi souvent quand on fait les plateaux avec d'autres humoristes, avec le côté un peu plus brouillon du stand-up. Et donc, la question que moi j'avais pour toi, c'est si tu as des conseils de rédaction. Bien sûr, chaque humoriste a son propre style, ça c'est évident, mais il y a quand même certains trucs de base que toi tu fais qui sont extrêmement efficaces. Et est-ce que tu crois que tu sais les verbaliser? Est-ce qu'il y a des conseils où tu te dis, tiens, quand j'écris, moi, j'essaie de faire attention à ça et ça?
Mais déjà, merci. Ça fait super plaisir d'entendre ça. Mais
comment va ton manche?
Il est bien lustré, là. Il est bien lustré.
Fort bien. C'est parfait.
J'essaie d'être sympa, OK?
Mais je donner des conseils, je serais peut-être un peu mal pris parce que en fait c'est je crois que c'est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que moi j'ai peut-être trop besoin de contrôler mon texte, donc je trouve ça toujours très impressionnant quand on se retrouve avec les humoristes avant un plateau et moi je suis dans mes feuilles avec différents paragraphes, des couleurs, des mots mis en gras, et je sais dans quelles idées je dois passer, quels mots je dois dire, etc. Et puis je vais voir une autre ou un autre humoriste et qui stresse et qui relit ses notes avant de monter sur scène, et sur son bras il est marqué percolateur, chambre à air et boudin, et il va partir comme ça pendant trois quarts d'heure sur ces trois mots là moi j'ai plus ce besoin de maîtrise du texte, et c'est vrai que je vais me prendre la tête sur quel mot est-ce que je vais employer et évaluer quel est celui qui aura le plus d'impact, mais ça manque peut-être, ça c'est peut-être le revers de la médaille, ça manque peut-être un peu parfois de spontanéité, parce que comme je suis très attaché à mon texte, du coup je vais peut-être moins facilement réagir à quelque chose que le public va me donner. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler pour augmenter ces interactions justement avec le public de manière spontanée et pouvoir me dire parfois, ok, mon texte, il est là, c'est un bon filet de sauvetage, je peux y revenir quand je veux, mais là, je vais favoriser un truc imprévu qui s'est passé dans le public. J'ai d'ailleurs un exemple très concret par rapport à ça. Une des dernières scènes que j'avais faites avec Rudy, t'étais là d'ailleurs juste avant le confinement, à Scarbeck, je crois que c'était Le Clandestin, un truc comme ça. Et je suis dans
L'Entrepote.
C'était presque la même chose.
Et je suis dans un des sketchs qui passe super bien. Et à un moment donné, il y a un gars juste devant qui pète son verre de bière sur un gros rire. Et il y avait mille façons de rebondir là-dessus, justement de frimer, de dire, ah ben voilà, tu te marres tellement que tu encaisses ton verre, j'en sais rien, quelque chose de plus drôle que ce que je viens de dire. Mais il y avait moyen de rebondir là-dessus. Et moi, accroché à mon texte, je continue et je n'y prête même pas attention. Et ça, c'est quelque chose où je pense que je manque des opportunités en or qui sont juste devant moi à cause de cette... Je suis trop proche de mon texte.
C'est quand même un peu absurde parce que toi, allez, je connais des humoristes qui justement aimeraient bien faire des bonnes interventions en improvisation, mais qui, on va dire, on n'a pas la répartie, on pas le coffre, le background d'improvisation. Et toi, tu as ce background d'improvisation, tu as de la répartie. Allez, quand on se voit en coulisses et qu'on déconne avec les humoristes, tu dégommes tout le monde, tu vois. Et donc, je me dis chaque fois, tiens, est-ce que c'est toi qui te... C'est pas que t'as pas les compétences, c'est que t'as vraiment... Tu te limites ou bien que tu te dis, ah non, reste dans ton texte, Denis, ou bien... Pourquoi, en fait ?
Ben, c'est une bonne question, je sais pas. Peut-être que je m'autorise assez peu à prendre des risques à ce moment-là. Je me dis, j'ai mon public, il est là, il adore ce que je suis en train de faire, ne prenons pas de risques et continuons. En fait, je sais même pas ce qui se passe dans ma tête pour que je ne... C'est comme si mon radar n'est pas ouvert à ce qui se passe dans le public. Et pourtant, je suis avec lui, j'entends qu'il se marre et je sens qu'il y a une bonne énergie qui passe entre nous, mais je vais pas dévier de la trajectoire sur laquelle je me suis mise, quoi.
Je pense que la répartie, et particulièrement celle qui se fait sur scène en interaction avec le public dans du stand-up, c'est vraiment quelque chose à comparer à un muscle. Pour moi, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas une question de tu l'as ou tu l'as pas, c'est une question de la développer. Et pour moi, ça s'apprend de la même manière que l'impro. L'impro, tu n'es pas devenu le bon improvisateur que tu as pu être. Je ne sais pas, je ne t'ai jamais vu en impro, peut-être que t'es nul. La première fois que t'es monté à faire un match d'improvisation. Fort bien. mais pour moi, tu vois, c'est ça, c'est que tu dois te permettre des prises de risque pour travailler ce muscle. Et pour moi, ça passe par des inserts dans ton texte où, à ce moment-là, il y a écrit dans ton texte demande la question au public. Et là, tu es obligé, parce que le public connaît maintenant les codes du stand-up, il sait très bien que quand tu vas poser une question, c'est pour avoir une espèce de répartie, c'est pour avoir un rebond. Et si tu le foires, bah, c'est pas grave, c'est un plateau, c'est à ça que ça sert à pratiquer. Mais pour moi, c'est en faisant ce genre d'interaction-là, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui écoutent, c'est en se forçant en fait à l'insérer dans son texte, et pas forcément en l'attendant que ça vienne directement du public, que tu pourras travailler ce muscle, quoi.
Ouais. Mais je crois que tu as tout à fait raison. Mais effectivement, pour revenir à l'improvisation, même si j'ai fait toutes ces années d'impro et que je me suis beaucoup amusé et avec beaucoup de très très chouettes moments, malgré tout, après 7 ans d'improvisation, je restais avec ces mêmes critiques qui revenaient de la part des coachs qui nous coachaient. C'était que j'étais trop dans ma tête. Ils disaient, voilà, apprends à lâcher ton idée de départ, apprends à lâcher l'envie d'aller faire ta blague sur ce qui s'est dit alors que maintenant on est déjà passé à autre chose. Soit dans la réactivité immédiate, réagis plutôt que d'intellectualiser, et j'ai énormément de mal à faire ça. C'est quelque chose qui ne vient pas en tout cas spontanément chez moi, alors que les peu de fois où je l'ai pu le faire sur scène ou ailleurs, j'ai pris un pied pas possible à le faire, mais je sais pas pourquoi.
Ouais, comme quoi, je me fais la réflexion que par exemple le passage avec Nikos, vous aviez un peu préparé, mais vous aviez écrit une phrase pour chaque artiste et puis après vous improvisiez un peu, non ?
Non, c'était déjà écrit. Non, mais vraiment.
Juste non.
C'était déjà écrit. Au moment où on l'a fait, c'était déjà écrit. Donc,
mais pour chaque intervention, il n'y a pas eu un peu d'improvisation ?
Pas au moment même. Enfin, l'exercice d'écriture s'est fait très très vite. Il a fallu très vite trancher sur ce qu'elle allait pouvoir fonctionner pour chaque petite phrase qu'on allait dire. Mais une fois que c'était fait, c'était validé. Et en tout cas pour ma part, je n'ai pas dévié de ce que j'avais écrit juste avant de monter sur scène.
C'est impressionnant.
Moi, j'aimerais revenir sur le texte, hein, parce que donc c'est vraiment les deux parties pour moi de ce qui fait Denis Richir, c'est le personnage égo et le texte. En plus d'avoir une très belle plume, c'est une plume lyrique. Les mots sont beaux, c'est poétique, il y a quelque chose qui est plus riche que dans un texte écrit qu'on a l'habitude de retrouver. Qu'est-ce qui fait que tu écris comme ça? Est-ce que Denis Richir, c'est quelqu'un qui a lu beaucoup, qui est intéressé par la poésie, ou est-ce que c'est la manière, ou est-ce que tu travailles fort pour atteindre ce lyrisme?
Eh ben, c'est marrant parce que justement, au moment où j'écris mes sketchs, je me dis, est-ce que je peux l'écrire de la manière la plus parlée possible. Comment est-ce que je pourrais dire pour que ça n'ait pas trop l'air d'être du travaillé. Bon, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé la langue. Hein. J'ai fait de formation, je suis traducteur, donc c'est quand même, il y a quand même un lien avec la langue française. Et puis oui, les bouquins. Bien sûr, j'ai lu beaucoup Pezzi, Martine, tout ça. J'ai bien approfondi. Non, c'est assez paradoxal parce que j'aime bien parler de la langue française, mais j'essaye de sur scène que ça ait l'air spontané et que ça n'ait pas l'air justement trop écrit. Et peut-être que justement cette espèce d'ambiguïté fait que ça me donne une couleur particulière, visiblement. Donc je vais peut-être continuer sur cette manière-là de fonctionner. Mais je ne me dis pas... Je choisis les mots plus en fonction de ce qui va me sembler le plus efficace pour le rire que je vais espérer créer, plus que pour me dire je veux ce mot-là parce qu'il est plus lyrique, parce qu'il a l'air plus joli et que ça en fait une plus jolie phrase. Donc je cherche malgré tout l'efficacité plus que le lyrisme, si ça répond à ta question.
Oui, oui, oui. Surprenamment, mais oui.
Oui.
Et je crois que Rudy l'avait aussi mentionné dans l'introduction. Tu as écrit pour Pablo Andrés, il me semble.
Oui.
Oui, et du coup, le fait d'écrire pour quelqu'un d'autre, ça doit aussi être particulier, surtout si toi, tu as une plume tellement particulière, tellement propre à ton propre personnage sur scène.
Ah, c'est un tout autre exercice. Et en fait, bon, j'ai pas écrit longtemps pour Pablo Andrés, j'ai écrit 6 capsules pour lui. Mais le cadre était très clair, hein. Il te dit voilà, je dois faire une capsule de 1 minute 30 sur je sais pas les fêtes de Saint-Nicolas et il te dit voilà, Pablo Andrés, son personnage, que ce soit Jérôme Floquet ou que ce soit l'agent Verhagen, c'est le même principe, c'est qu'on va aller dans l'exagération. Donc tu vas parler de je sais pas Samyrte, elle est de plus en plus grande, elle est de plus en plus, et tu vas faire des comparatifs. Et donc, il te met un cadre de ce qu'il veut comme montage humoristique. Et je lui ai proposé des trucs parce qu'il était très, très pris à ce moment-là. Et ça a bien fonctionné. Mais il y a un moment où moi, j'y trouvais plus tellement de plaisir à faire cet exercice-là, en fait. Parce que déjà j'avais remporté il y a pas si longtemps le Next Prince, c'est que j'avais envie d'écrire plus pour moi, d'aller plus dans l'écriture d'un spectacle pour moi, et que pour plusieurs raisons aussi, niveau du temps, j'avais pas énormément de temps, parce que souvent avec Pablo Andrés, il me donnait la thématique et il voulait que je lui propose quelque chose le lendemain, ce qui est tout à fait compréhensible vu le rythme qui était le sien, mais c'était pas toujours facile pour moi de le faire. Et donc voilà, après 5-6 chroniques, j'ai dit que c'était que j'allais arrêter pour l'instant, quoi. Mais c'est tout autre exercice.
Non, donc t'as écrit pour Pablo Andrés avant même que t'aies gagné Next Prince of Comedy.
Mais il m'a vu en fait au Next Prince, il m'a vu en demi-finale justement, et après on avait un petit peu discuté, il aimait bien ce que j'avais fait, et du coup il a voulu faire un test, on a fait un test sur une chronique, et finalement il s'est dit ok, super, ça peut vraiment m'aider si je peux me décharger un petit peu d'écriture de ces chroniques, et voilà, et j'en ai fait, ces chroniques, ces capsules, hein, c'était des capsules vidéo pour la RTBF, et donc voilà, j'en ai fait 5-6... Ça s'est mis comme ça assez rapidement.
Et puis ensuite, il a dit « Merci, c'est tout pour moi. Allez, salut Pablo, bonne chance dans ta carrière, j'ai la mienne à écrire.
» Oui, j'ai dit... Non, je crois que les mots exacts, c'était « Pablo, maintenant tu peux aller te faire foutre. » Je crois que j'ai dit ça.
Ah oui, 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 il nous a dit ça d'ailleurs, c'est vrai, c'est vrai.
« Paye-moi et arrête de me faire de l'ombre. » Je crois que j'ai dit ça.
En parlant d'ombre, on a parlé d'une de tes plus belles scènes au début de ce podcast. Maintenant, il y a une question que Rudy et moi, on se pose, c'est fondamentalement, au fond de toi, est-ce que tu crois qu'un jour, tu pourras jouer dans une scène plus prestigieuse que ton rodage à la Casa Sablon l'année passée? Parce que ça, non. Vraiment, les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais c'est vraiment, c'était la référence en humour. Et Denis a intronisé cette scène pour nous. Et c'était un passage incroyable.
Non, rien ne battra la Casa Sablon. Ça restera dans mon cœur à tout jamais. Et je ne voudrais pas d'une scène plus grande que ça. Je suis lié
pour vous dire,
à cette scène.
Il y avait quoi? Il y avait de la place pour mettre 15 personnes? 20?
15, je crois, pas 20, une quinzaine.
C'est ça, c'était le but aussi d'avoir vraiment une toute mini salle pour pouvoir vraiment faire du rodage avec un petit public et vraiment s'asseoir au tout premier pas. Mais au final, la salle elle-même n'avait pas vraiment l'allure qu'il fallait, quoi.
De toute façon, c'est le public de Denis, hein, c'est 15 personnes max.
Disons que c'est, mais c'est plus un couloir qu'une salle quand même. Hein. C'est plus, voilà. C'est tellement dans la longueur que. Mais cela dit, ça a vraiment joué son rôle puisque c'était du rodage. J'ai pu tester des trucs et quand même retirer quelques leçons de ce passage, de choses à changer, de choses à modifier. Donc ça a joué son rôle. Si je devais le refaire, je le referais.
Est-ce que tu dirais que c'était la scène la plus foireuse où tu as joué ou bien tu as une autre expérience qui est plus foireuse?
Il y en a une autre. Non. Il y en a une autre.
Ah, Rudy semble être
encore pour nous. C'est encore pour nous.
Ben oui, c'est les scènes à l'Oscar à Waterloo. Ça, c'est foireux, c'est foireux. Hein. c'est et j'en ai fait deux ou trois, je sais pas. Et toutes étaient foireuses. Ah non, vrai. Ça c'était.
C'est-à-dire que c'est un bar qui a fermé. Hein. Donc le What the Fun, on a fait deux trois bars qu'on a fermés en fait après nos passages.
Ah, le bar a fermé. Ah oui, je savais même pas.
Ah oui, ouais, et le propriétaire a dit que c'était à cause du passage de Denis Richie. Il a vraiment insisté là-dessus.
C'est vrai que voilà, ce bar. Ouais, tant mieux,
on a fait différentes salles et malheureusement toutes n'ont pas toujours été des réussites et celle-là particulièrement à Waterloo où on essayait de jouer dans un bar où à nouveau on est très bien accueilli par l'équipe du bar qui veut vraiment que ça se passe bien mais malheureusement la salle était fort grande, le public n'était pas forcément conscientisé au fait qu'il y avait un spectacle et à nouveau la magie ne pouvait pas s'opérer et Denis en a fait les frais une ou deux fois et c'est très sympa de continuer à travailler avec nous d'ailleurs Denis.
Non. Mais en fait, c'est pas le pire. Quand tu fais une scène où tout le monde galère parce que c'est la merde, c'est pas trop grave. Mais le pire, c'est quand tu fais une scène où ça cartonne pour tout le monde et que toi, tu fais un bide. Et ça j'ai vécu. Ça, c'était peut-être une de mes pires scènes. C'était à Anu pour le J Comedy Lounge où j'ai eu un passage. Je suis passé dans un tunnel. Ça ne faisait rire personne. C'est une des rares fois où j'ai été interrompu sur scène. Alors que je passais à côté, juste après, c'était qui ? C'était Bruno Bitoun, je crois, qui avait cartonné. Le public était chaud, il était en feu. Après moi, c'était Richard Ruben qui a retourné la salle. Mais quand moi, je suis passé, j'ai passé dans un cimetière. Et il y a une dame qui au milieu du sketch, donc je jouais mon... Je me suis dit, c'était la première fois que je faisais Anu, je vais prendre un sketch qui fonctionne, je vais prendre quelque chose, c'est sûr, c'est bon, c'est rodé, je prends mon personnage arrogant qui explique pourquoi il a plus de mérite d'être sur scène, je ne fais rire personne. Et puis à un certain moment, il y a une dame qui me dit, « Dites, vous ne vous appelleriez pas modeste par hasard ?» Et là, j'ai compris que le second degré n'était pas passé du tout. Et voilà, c'est ce qu'on disait en tout début de podcast. Parfois, si j'ai pas mis c'est pas assez clair que c'est un personnage, ben ça ne passe pas du tout. Et là, c'était pas passé du tout.
Bah écoute, ça fait partie de l'expérience aussi. Ce genre de scène, ça donne des anecdotes marrantes à raconter. Au moment même, ça fait très mal. Mais après, on peut en rire.
Et quand à la fin, quand tu fais partie tu es avec tous les autres humoristes et que les gens viennent féliciter un à un en disant merci beaucoup, j'ai passé une super soirée. Horrible. Et puis ils te regardent, ils font un sourire et puis ils partent. Et là, tu te dis ok, t'as bien foiré quelque chose.
Ouais, t'as juste envie de te casser, quoi. Ouais. C'est vraiment ce bain de foule après un bide.
Ah, c'est horrible.
C'est horrible, quoi.
C'est une petite mort, c'est horrible.
Et ben, en parlant d'une petite mort, ça va être la petite mort de ce podcast, en fait. On arrive déjà à la fin.
Déjà?
Ah bah oui, mec, ça fait une heure qu'on papote, hein.
Mais j'adore parler de moi. Moi, je peux encore dire plein de choses.
Mais vous appellerez pas modeste, monsieur. Et du coup, on va clôturer ce podcast. Un tout grand merci, Denis. Denis, merci si nos auditeurs ont envie d'en savoir plus sur toi, ta personnalité flamboyante, ton talent débordant, où est-ce qu'ils peuvent retrouver ton actualité?
Ah ouais, sur Facebook en fait, hein, j'ai ma page de Facebook Denis Richir humoriste et effectivement je ne suis pas le plus actif, je publie pas vraiment de vidéos, mais en gros une chose que je fais c'est j'y mets toutes les dates de mes prochaines scènes, prochains complets et donc ça c'est tenu à jour, donc n'hésitez pas à la liker, là au moins ce sera mentionné. Je ne suis pas encore sur Instagram comme l'a dit Rudy, ça ne saurait tarder d'ici la prochaine décennie, je pense que ça arrivera.
La prochaine décennie. Mais du coup, Denis, je conseille aussi à tous nos auditeurs d'aller voir ton spectacle qui porte le nom, et je ne sais pas en fait, parce que ça change.
Mais parce que non, parce qu'il en a
maintenant un nom final.
Il en a pas encore en fait. J'ai quelques idées de noms que je voudrais soumettre à ceux qui l'ont vu, mais pour l'instant il ne porte pas encore de nom. Donc on peut dire que c'est un spectacle en rodage dont le titre devrait arriver bientôt.
Ouh, un peu de teasing. En ouais. tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook de Denis Richir. Et voilà, on te remercie.
Merci
Rudy,
à vous.
Aussi à nouveau merci à toi d'avoir été présent avec ta bonne humeur et bien sûr tes petites histoires bien trouvées sur notre invité. Est-ce que tu as un mot pour nos auditeurs par rapport à ce podcast?
Bien sûr, pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager, lui mettre des étoiles en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et si vous voulez revenir vers nous, n'hésitez pas à venir sur la page Facebook du What the Fun, nous laisser un petit commentaire pour nous dire comment est-ce que vous trouvez nos podcasts et qui est-ce que vous avez envie qu'on invite ensuite.
Super. Et ben voilà, un tout grand merci Rudy, un tout grand merci Denis, on se réjouit vraiment
merci
de
Raph,
te retrouver.
Merci Rudy.
Sur les planches du What the Fun et d'autres, bien sûr, dès que on peut à nouveau. On a hâte.
J'ai hâte.
Et un tout grand merci à vous, chers auditeurs. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode numéro 24. À la prochaine.
Salut.
Salut.